vous parlerai de Charles II de Valois-Alençon. Charles II de Valois-Alençon, 1297-1346, est comte de Chartres, du Perche et d'Alençon. Il n'est autre que le frère de Philippe VI de Valois, roi de France. Son premier fait d'armes commence en 1324, aux côtés de son père Charles de Valois, au siège du château de Quatre Sauces de La Réole. Cette histoire a été racontée par Maurice Druon dans Les Rois Maudits. Il s'y distingue par son brillant courage et sa témérité. En effet, ce château, tenu par les Anglais d'Edmond de Kent, demi-frère du roi d'Angleterre, Édouard II, est assiégé pendant 5 semaines. Pour la première fois, on utilise l'artillerie à poudre en Europe. Les tirs sont incessants. À la fin, l'Anglais se rend à Charles de Valois et à son fils Charles II. Après le couronnement de son frère, il le suit sur tous les terrains de combat, en particulier celui en Flandre. Il est gravement blessé à la bataille de Cassel en 1328, où il commandait une division. Philippe VI de Valois l'envoie surveiller les mouvements des Anglais à Saintes. Mais il n'attend pas longtemps. Il prend la ville par surprise et fait raser les murs. Mais maintenant, le roi se méfie de la fougue et de l'impétuosité de son frère. Il tarde à lui redonner un nouveau commandement, car il n'obéit pas beaucoup. Mais en 1340, il reprend sa place dans l'Ulster royal. Il part avec une armée de 5000 Français et 3000 Génois, soutenir Charles de Blois contre Jean de Montfort, au comté de son cousin Jean, futur roi de France, au nom de Jean II le Bon. Il assiège et saisit le château de Champtoceau dans la Marche de Bretagne. Puis, il prend la direction de Nantes. Il se rend après plusieurs escarmouches et fait prisonnier Jean de Montfort. Ensuite, il se dirige vers le château d'Ennebon, propriété de la femme de Jean de Montfort, surnommée Jeanne la Flamme. Mais là, le siège, ça ne fonctionne pas, c'est raté. Il rebrousse chemin. Le conflit cesse après une trêve entre Édouard III et Philippe VI de Valois. Charles II, avec son armée, retourne à Paris, accompagné de son prisonnier de marque, Jean de Montfort. 1346, Édouard III envahit la France par le bord de Saint-Valahoug, dans le Cotentin. Il s'approche de Paris, mais il n'engagera pas le combat contre Philippe VI, car il a assez perdu d'hommes depuis son débarquement. Il doit traverser la Seine pour rejoindre Calais. Mais tous les ponts sont fortement tenus. Il ne reste plus que celui fortement délabré de Poissy. Il le renforce et traverse la Seine. L'Ost se met en marche à la poursuite des Anglais. Charles II commande l'avant-garde. Édouard III ne peut plus éviter le combat. Il s'arrête à Crécy et trouve un emplacement idéal pour combattre les Français. Le haut d'une colline. Les troupes françaises, après une longue marche, sont épuisées. La pluie ne cesse de tomber. Les chevaux s'embourbent par le poids de leurs cavaliers. Philippe VI ordonne à ses chefs de division, dont celle de Charles II, de mettre au repos son armée une nuit, afin d'être frais pour le lendemain, le jour de la bataille. Mais cette hoste royale est ingérable et incontrôlable. Les grands seigneurs, voulant montrer leur puissance devant le roi, décident d'engager les hostilités. Les Anglais, surpris, de cet engagement immédiat des Français, se rangent en ordre de bataille. Ils sont commandés par Édouard III lui-même, son fils, Édouard de Woodstock, le prince de Galles, et Guillaume de Bourbon. Philippe VI, voyant que cette pagaille décide d'envoyer d'abord les arbalétriers génois avant l'assaut de la chevalerie française. Sous une pluie incessante de flèches, des archers gallois et leurs longbons, ils jettent leurs armes et s'enfuient. Voyant cette débâcle, des génois, il ordonne: tuez cette ribaudaille qui nous empêchera d'avancer. Charles II, qui commandait l'avant-garde de l'Ost, engage le combat le premier. Il est suivi par des princes de grand renom comme Louis de Châtillon, comte de Blois, Raoul le Vaillant, duc de Lorraine, Jean de Châlons, Louis de Sancerre, Jean d'Auxerre, Louis de Nevers, comte de Flandre, et bien d'autres. Philippe VI, en voyant les armes de son frère, Charles II, en tête, fulmine contre lui. Il est impuissant devant cette horde ingérable qui ne l'écoute pas. Charles II enfonce les premiers rangs anglais. Il est surpris par cette pluie de flèches et les épieux fixés dans le sol qui embrochent les destriers et font tomber leurs cavaliers. Certains sont même transpercés par ces piques et d'autres par les traits. C'est un désastre, une boucherie. Avant la tombée du jour, Charles II pénètre dans les rangs anglais jusqu'à la hauteur du prince de Galles, qui semble fléchir un instant. Ce succès est de courte durée. Les lances anglaises sont levées. Charles II de Valois-Alençon est tué, épée levée, prête à s'abattre sur l'ennemi. La bataille de Crécy est perdue. Le roi de France, sur ordre de son conseil de guerre, fuit vers Amiens et retourne à Paris. Sur les lieux du combat, les Français sont encore vivants, sont faits prisonniers. Quant aux autres, blessés, sont achevés par les coutiliers anglais sur ordre du roi d'Angleterre et de son fils, qui sera surnommé ce jour-là le prince noir. Les Anglais sont vainqueurs et continuent leur route en direction de Calais. Édouard III assiégera la ville. Elle tombera dans ses mains un an plus tard, en août 1347. L'Ost royal perdra dans cette bataille un roi, Jean de Luxembourg, le roi aveugle de Bohême. 10 princes de sang, 2 prélats, 80 chevaliers bannerets, 1200 chevaliers et 15 000 piétons. Ce fut l'une des plus grandes défaites françaises de la guerre de Cent Ans avec Poitiers et Azincourt.